Ce programme vous est proposé par archiveradio.be avec la collaboration du Fonds d'aide à la création radiophonique et la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission consacrée à l'arrivée de la publicité commerciale sur les radios libres belges au début des années 80. L'émission s'appelle « On se retrouve après la pub ».
On l'a vu dans la première partie de notre émission. Les premières publicités sont apparues sur les ondes le 1er juin 1982. Dès le mois de septembre de la même année, la RTBF déposa plainte contre les quatre premières stations qui avaient osé braver la loi. À Tournai contre Radio Intérim, à Charleroi contre Radio Métropole, à Bruxelles contre Radio Contact et à Liège contre Radio Basse-Meuse. Si pour les trois premières le tribunal se déclara incompétent, ce ne fut pas le cas pour Liège, où le 27 septembre 1982, le tribunal correctionnel condamna les six administrateurs de Radio Basse-Meuse à 51 000 francs belges, environ 1264 euros chacun, et à une astreinte de 100 000 francs belges, environ 2470 euros par jour de diffusion de publicité. La RTBF recevait aussi un franc belge de dommage moral. L'action de la RTBF se basait sur un arrêté royal du 21 août 1981 qui stipule que les émissions produites par une station de radiodiffusion locale ne peuvent avoir un caractère de publicité commerciale.
Un des administrateurs de Radio Basse-Meuse nous explique maintenant comment sa radio en est venue à diffuser de la publicité nationale avec la régie IPB.
Bien, je m'appelle Éric Defau, j'ai 63 ans, je suis né en 1953 et j'ai commencé la radio libre un peu comme un vieux vétéran, un peu pléonasme, mais en 1979, au début de Radio Basse-Meuse, mieux connu sous le nom de RBM. En fait, RBM était la plus grosse radio, enfin la radio la plus importante, radio privée, radio pirate comme on dit encore à l'époque, ou radio libre, dans les fin des années 70 et début des années 80, la radio, l'auditoire de la radio ne faisait que croître et on commençait à faire de l'ombre tout doucement à la RTBF. Et nous avons été contactés par le groupe IPB, dont dépendait RTL, et pour commencer à faire de la publicité au niveau national. Donc ils nous cherchaient des annonceurs nationaux, voire internationaux, pour faire de la publicité. Comme IPB avait contacté les plus grandes radios locales, les plus grandes radios privées de chaque grande ville, je crois qu'il y en avait 6 ou 7 en région Wallonie et 2-3 aussi à Bruxelles. Donc on faisait un groupement et c'était le GRIP, je pense que c'était ça, si mes souvenirs sont exacts. Et là, on a plusieurs réunions avant de démarrer et on était tous d'accord parce qu'il fallait absolument ouvrir la porte pour pouvoir avoir des rentrées financières. Parce qu'ouvrir une radio, bon, au début, voilà, il y en a qui faisaient ça dans l'arrière-cuisine, ça peut marcher, mais ça marche un certain temps. Quand on veut faire du 24 heures sur 24, qu'on veut commencer la stéréo, qui était interdite aussi pour les radios privées, commencer à rémunérer les animateurs, parce que bon, c'est bien beau de faire du bénévolat, mais à un moment donné, le bénévolat, il doit s'arrêter, il faut passer à autre chose. Bon, à Liège, c'était vraiment la plus grosse radio du centre-ville, tout du moins. Et c'était vraiment la radio qui était écoutée partout chez les commerçants. On pouvait se balader n'importe où à Liège, même dans les tavernes, dans les bistrots, dans les magasins. C'était RBM qui passait. C'était nouveau, quoi, l'attrait de la nouveauté. Et puis on passait autre chose que ce que passait la RTB à l'époque. C'était tout à fait différent. On avait des choix musicaux beaucoup plus éclectiques. On était beaucoup plus à la pointe de ce qui se faisait en Angleterre ou aux États-Unis par rapport à ce qu'on écoutait sur la RTBF. Je me souviens encore quand la RTBF a un peu pour contrebalancer les radios libres, quand ils ont lancé Radio 21. Ben à l'époque, il y avait la sœur de Juan Germé qui était animatrice là-bas et qui avait près de 60 ans. Bon, ça nous faisait rigoler, quoi, parce que c'était, voilà, on commence des radios pour des jeunes avec des vieux nougats. Évidemment, c'était la sœur de Juan Germé. Juan Germé, pour info, c'était quand même la sœur du grand patron de l'RTBF.
Comment réagissaient les annonceurs à l'illégalité de la publicité? C'est ce qu'on a demandé à André Vanek de la régie IPB. En parlant toujours de la publicité, est-ce qu'il y avait une perception différente chez les annonceurs nationaux, chez les annonceurs locaux?
Ah oui. Ben, les nationaux ont mis plus de temps parce qu'ils ont des juristes à l'intérieur de la boîte. Les juristes, c'est en général prudent. Voilà. Ils sont là pour dire « faites gaffe, hein, voilà tous les risques que vous encourez ». L'annonceur régional, il s'en fout. Hein. Tonton Tapis, il a toujours été un gros client. Et Walibi aussi.
Et les annonceurs, ils avaient la perception à un moment que c'était illégal ou bien oui, eux, oui. Du moment que passait leur pub, c'était bon ou...
Non. Alors les annonceurs régionaux s'en foutaient. Ils étaient presque solidaire du putsch. Hein. Par contre, un annonceur national, un Coca-Cola, n'est venu que quand c'était libéré.
Oui, entrez. Bonjour. La publicité régionale sur Radio Basse-Meuse est assurée en exclusivité par la régie Radio Sud, téléphone 32 38 20. Si vous souhaitez faire diffuser des spots publicitaires sur notre antenne, formez dès à présent le numéro 32 38 20. Notre régie vous enverra aussitôt l'un de ses délégués. À bientôt.
Le lendemain de la condamnation, le 28 septembre, Radio Basse-Meuse déclare dans une conférence de presse qu'elle reprend provisoirement le cours normal de ses émissions, pub comprise, et qu'elle fait appel du premier jugement. Le 30 septembre 1982, le matériel de la radio est saisi et des scellés sont apposés sur les portes de son studio.
Nous avons demandé à Éric Defoe de réagir à cette condamnation et de nous expliquer ce qui, selon lui, avait justifié la réaction du parquet.
Ah oui, parce que moi qui n'ai jamais eu affaire à la justice, là j'étais condamné, comme je disais précédemment, en correctionnel. En fait, nous étions 6 administrateurs de la radio, donc RBM, et on a eu plusieurs sommations de devoir arrêter, et nous, il ne nous plaisait pas d'arrêter. On a continué, et on s'est fait condamner, on s'est fait saisir des metteurs, ce qui nous a... Par la suite, on était obligé de changer de nom avec la même équipe, de passer de RBM à FM 56. Mais oui, on a eu vraiment des gros soucis. Et ce qui a, c'était un mal pour un bien parce que quelque part, RBM, tout en étant, je vais dire, semi-professionnel, on a passé, grâce, je veux dire, à cette condamnation, à un stade encore un peu plus professionnel. C'est-à-dire que la vieille équipe du début... c'était des disjockeys, certains de village, vais-je dire. Donc, on a changé, on est devenu beaucoup plus citadin, encore plus citadin que nous l'étions. Donc, je crois que c'était un mal pour un bien, finalement.
Le parquet a été plus sévère à Liège qu'ailleurs, puisque les autres radios dans les autres villes n'ont pas été condamnées. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard ou est-ce qu'il y avait une volonté délibérée de s'en prendre à RBM? Pourquoi RBM en particulier? Est-ce que rétrospectivement, vous le savez?
À mon point de vue, je pense qu'à l'époque, c'était Robert Stéphane qui était quand même PS, qui était directeur du centre de RTBF de Liège. Et on faisait pas mal d'ombre à RTBF Liège, qui avait ses décrochages. Nous, on émettait déjà en 24 heures sur 24. Eux ne le faisaient pas. Il y avait quand même une certaine jalousie. Et je n'en veux pour preuve que lorsque c'était certaines émissions en soirée, il y avait moi, je me souviens, en faisant même des émissions, il y avait des animateurs de la RTBF qui venaient voir comment nous travaillons. Donc c'est...
Oui, mais ça, c'est la RTB, c'est pas le parquet, quoi. Alors pourquoi,
non, le parquet, mais justement, parquet mais à mon avis, mais ouais. Voilà, pour moi, ce que je veux vous dire ici, c'est que comme on faisait de l'ombre à RTBF Liège, PS, nous, on a toujours été un peu considérés radio libre, un peu plus libéral, donc c'était pas spécialement la même couleur, même si à la radio, on ne faisait pas de politique, mais... Il faut pas se leurrer, quoi. Le commercial, c'est pas spécialement PS. Et voilà. Donc, il suffit de voir maintenant RTL. Et on dit toujours plus qu'RTL, c'est la radio MR. Et l'RTBF, c'est la radio des socialistes. Ben voilà. À l'époque, c'était déjà le cas. Et je crois que c'est ça qui a vraiment provoqué l'acharnement, je vais dire, de Monsieur Wangermé, paix à ses cendres, mais sur notre petite radio.
Pierre Baye nous livre le sentiment des animateurs de Radio Basse-Meuse suite à ces ennuis judiciaires. Ensuite, André Vanneck nous donnera la position de la régie IPB. Et ensuite, on aura celle de Jean-Loup Bertin, un spécialiste de la radio commerciale.
C'est-à-dire qu'on existait, nous, à ce moment-là, et que peut-être qu'ils se sont dit, on risque à un moment ou à un autre, voyant arriver le phénomène chez nous, mais aussi le phénomène ne s'est pas, c'est pas arrêté aux frontières, il était européen, le phénomène. Hein. Et puis probablement aussi par transposition. Ils savaient que la FM en d'autres pays, et notamment aux États-Unis, a pris une importance phénoménale. Donc voir arriver la FM à Liège et puis dans d'autres villes, c'était probablement un danger. Enfin, c'est comme ça qu'ils devaient à leur place, c'est comme ça que je l'aurais vu. Oui. Mais on a eu effectivement, et du côté des animateurs, il y avait une espèce de rivalité. On n'aimait pas trop à l'époque la RTBF parce qu'elle nous empêchait de danser en rond. Maintenant, moi, je comprends aussi leur point de vue, hein, mais Bon, nous, d'un point de vue animateur, on avait surtout envie de continuer notre activité parce que c'était par passion, comme l'a dit Jacques tout à l'heure, qu'on faisait ça.
En 1982, la RTBF attaquait même des radios privées pour avoir diffusé des spots de pub. Comment avez-vous vécu cette période et cette action de la RTBF ?
On se défendait. On se défendait le mieux qu'on pouvait. La RTBF, bizarrement d'ailleurs, parce qu'elle n'avait rien à perdre, la RTBF considérait qu'effectivement, cette manière d'aller chercher du financement pour les radios libres était évidemment la source de la concurrence. Tant que les radios libres n'avaient pas de financement, ça l'inquiétait pas trop, parce qu'elle ne voyait pas comment ils allaient pouvoir se développer. À partir du moment où on a commencé à laisser faire la diffusion de la pub, alors pour la RTBF, elle a vu tout de suite, c'était l'époque Vengermé, elle a vu tout de suite arriver le problème. Moi-même, j'étais administrateur délégué d'IP. Était à mon conseil d'administration le groupe Havas, qui était majoritaire, mais RTL, ce qui s'appelait la CLT à l'époque, faisait partie aussi de l'actionnariat d'IP. Et à un conseil d'administration, je me suis retrouvé à l'époque avec Gustave Grasse, je n'oublierai jamais, qui débarque au conseil et qui dit « Voilà, ça n'est pas à l'ordre du jour, mais je voudrais vous demander la démission de Vanek parce qu'il a, alors qu'on parlait d'RTL, il a soutenu des radios illégales en commercialisant de la publicité. C'est inacceptable et donc il faut le démissionner. » À l'époque, le président d'Havas et le président d'IPB s'appelait Jacques Douce, Feu Jacques Douce, qui était un homme extraordinaire, et qui a dit « Mon cher Gustave, tu n'y penses pas, c'est l'avenir de notre régie, nous sommes ici au conseil d'administration d'IPB, tu ne vas pas mettre des bâtons dans les roues dans le développement de notre business. »
Donc ça veut dire qu'il n'y croyait pas alors
ou... Gustave Grasse, ouais. Oh, il était... Vous savez, RTL à Luxembourg, c'était un peu la radio de service public, part, alors que c'est purement privé. Mais là, les rapports entre les RTLiens de l'époque et RTBF étaient des rapports confraternels. Et donc, ils considéraient que nous étions, nous, un élément très perturbateur dans le modus vivendi de l'époque.
C'est une excellente période, c'est une période magique. Je dirais être dans les tranchées, se battre, se cacher. C'est pas pour rien que la majorité des gens de cette époque ont des pseudos. De se dire qu'on est dans l'illégalité, j'avoue, je dois l'avouer, c'est très excitant. C'est très, très, très excitant et ça nous a forgé. C'est-à-dire que le fait que ce ne soit pas simple, ça nous a forgé un caractère et ça nous a donné envie d'aller encore beaucoup plus loin. Et c'est normal, je crois qu'à un moment, la RTB à l'époque, c'est dit, oulala, au début, je crois qu'ils ne nous ont pas pris du tout au sérieux. Ils ont dit, bon, c'est un bande de jeunes, là, ils vont s'amuser. Ils ont commencé à voir qu'effectivement, ces jeunes commençaient à prendre de la place. Et je crois que faire uniquement ce qu'ils ont fait n'a rien apporté. La preuve, c'est que tous les gens aujourd'hui travaillent dans les milieux des médias. La majorité des radios, pas toutes, mais beaucoup existent encore ou ont depuis lors intégré des groupes. Donc, ce qu'ils ont voulu faire n'a pas du tout tué les radios. Au contraire, ça les a renforcés parce que quand on vous attaque, même votre voisin ou ennemi en tout cas collègue qui est à côté de vous, qui est un peu un concurrent, quand vous avez un ennemi commun, vous vous réunissez, vous mettez ensemble et vous devenez beaucoup plus fort.
Quelles ont été les réactions politiques à ces actions de la RTBF ? On a demandé à Jean-François Istas pour le Parti Socialiste et à Philippe Monfils pour le Parti Libéral de nous donner chacun la position de leur parti.
Oui, mais le PS a toujours été du côté de la RTBF. Nous étions représentés au conseil d'administration. J'ai moi-même été administrateur de la RTBF. Donc c'est clair qu'on soutenait ces actions judiciaires de la RTBF et qu'on essayait de canaliser la place des uns et des autres en sentant venir le moment où la RTBF aurait elle-même besoin de publicité commerciale, ce qui n'a pas manqué d'advenir. Donc je dirais que le PS était proche de la RTBF de ce côté-là et c'est vrai que ça a pu paraître comme un pas en arrière par rapport aux radios locales, c'est incontestable.
Bien entendu, on s'est opposé à ça, je l'ai dit qu'on a attendu qu'on revienne et c'est comme ça qu'en 1985, je crois 84-85, j'ai reçu pour mission, c'est vraiment une mission, de changer fondamentalement cette affaire et de faire un décret qui bouleversait tout le système. Et c'est comme ça qu'en 1985, nous avons fait un décret qui, d'une part, permettait l'ouverture un grand service de radio-télévision qui n'était pas public, qui était privé. C'était évidemment à ce moment-là RTL qui s'en est emparé. Et d'autre part, l'organisation des radios, la liberté pour les radios, et ainsi de suite. En même temps que De Croo, si je ne m'abuse, au niveau de la RTT, prenait un arrêté qui libéralisait également la publicité au niveau des radios locales. Donc on a fondamentalement changé tout le système, et toujours issu par la même idée, la liberté, le respect de l'opinion de chacun, et l'autre vérité, comme on l'appelait à l'époque, l'autre vérité, il n'y avait pas que la vérité publique, il y avait évidemment la vérité d'organismes privés.
Octobre 1982, soit 4 jours après la condamnation, 2 administrateurs et la quasi-totalité des animateurs de Radio Basse-Meuse claquent la porte pour fonder une nouvelle station, FM 56, dont les émissions débutent à 14h sur 103.8 MHz. Cette stratégie de changement de nom avec la même équipe était-elle une bonne idée? C'est la question que j'ai posée à Éric Defoe. Justement, le 1er octobre 82, la grande majorité des animateurs et des administrateurs lancent FM 56. Est-ce qu'il n'y avait pas un danger d'avoir le même problème qu'avec RBM? Est-ce que vous aviez des assurances quant à la réaction de la RTBF et du parquet? Parce qu'ils pouvaient dire quelque part que vous vous foutiez un peu d'eux en relançant la même chose.
Oui, mais là, on avait quand même un fameux mastodonte derrière nous, à savoir IPB, qui avait dit qu'il nous soutenait et que s'il y avait condamnation, il serait derrière nous et qu'il paierait chaque fois. Donc c'est vraiment, on allait au forcing, quoi. On était sûr de ce qu'on faisait. En plus, ce qui ne gâtait rien, on était bien introduit au palais de justice de Liège. Donc dès qu'il y avait un petit truc qui frissonnait, on était un peu en avance, donc on savait ce qu'on pouvait faire. Donc voilà, on n'a pas non plus été trop méchants, mais on a continué suivant. Bon voilà, on faisait de la pub, et puis maintenant tout le monde en fait.
FM 56, votre station de radio régionale émettant modulation de fréquence sur le 103.8 MHz, canal 56, 24 heures sur 24. Il est exactement 14 heures passées de 6 minutes, samedi 26 mars 1983. Philippe Houquin, je vous salue, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous avez le moral et surtout restez en pleine forme, c'est comme ça que je vous aime. Dans les chaumières, j'espère que tout se passe bien et puis que vous passez un excellent week-end à l'écoute d'FM 56, bien entendu. Auparavant, le disque de la semaine et puis auparavant encore Eric Delex que vous retrouverez sur l'antenne samedi et dimanche prochain puisque je me suis laissé dire qu'il ne sera pas là demain pour présenter dimanche à l'apéro. N'oubliez pas pour nous joindre le 23 58 91, préfixe 041. Et également pour nous joindre par la voie du courrier le 60 de la rue du Pot d'Or à 4000 Liège. 14e classement du nom pour cette année 1983 avec aujourd'hui 3 entrées au sommaire. Vous les retrouverez tout à l'heure bien entendu dans le cadre de ce classement. Et puis pour ne rien changer de nos habitudes, 3 récapitulatifs, le premier du numéro 30 au numéro 20 pour paraître moins long, le second du numéro 20 au numéro 10. Et puis le troisième sera le récapitulatif général. Bon après-midi à vous tous.
Les partis politiques ont assez vite été amenés à se prononcer sur le mouvement des radios libres. Quelles étaient les positions du Parti socialiste et du Parti libéral ? Eh bien, c'est ce que nous avons tenté de savoir avec Jean-François Istas et avec Philippe Monfils.
Par rapport aux radios libres et par rapport aux télévisions locales, d'ailleurs, le Parti socialiste, dès le départ, a été extrêmement proche. Donc, c'était quelque chose qui nous parlait, qui était dans les régions et qui correspondait à la façon dont le PS imaginait l'audiovisuel, tout en défendant la RTB de l'époque et en faisant une entreprise publique autonome. Je dirais en parallèle, on s'est soucié également du développement des radios libres, d'abord sans publicité et puis avec une publicité contrôlée, en quelque sorte canalisée.
Mais le PRL n'avait pas d'objection d'aucune sorte concernant ces radios. Encore une fois, ce que je répète, c'était l'évidence que nous voulions, c'était pour tout le monde l'ouverture. Qui a des petites radios ou des moyennes radios qui se lancent dans le secteur, c'est leur problème. On ne va quand même pas poursuivre des créateurs, parce qu'il se fait qu'à une certaine époque, tous les créateurs étaient de gauche, présentaient une idéologie de gauche. Non, ce que nous voulions, c'était l'ouverture complète. Et donc, nous n'étions pas du tout opposés aux radios libres. C'est la preuve d'ailleurs que Radio Contact, qui a été à l'origine créée par des libéraux francophones et flamands, Radio Contact était un des fers de lance de l'ouverture et de la volonté de libéralisation. Donc pour nous, le mouvement Radio Libre était un mouvement intéressant. Je dirais aujourd'hui qu'il aurait fallu peut-être s'y appliquer davantage, mais il n'était pas question de l'interdire. Ce que nous ne voulions pas, c'était encore une fois l'interdiction générale. N'oubliez pas qu'avant 1980, c'était le monopole de RTBF, pas de publicité sur les radios, et on poursuivait les malheureux détenteurs de radio libre à travers les bois et les champs. Quelqu'un me rappelait il y a quelques jours qu'il y avait une sombre histoire du côté de Brasseigneur Isaac où les gens s'enfuyaient, poursuivis par les gens de qui ? Par les gens de la RTT, c'est-à-dire télégraphe, téléphone, puisque c'était à ce moment-là national. Eh bien, ça aussi, on ne pouvait pas l'accepter. Qu'on foute la paix aux gens, c'est ce que nous voulions, qui crée une radio. Et si les libéraux ont envie d'en avoir une, qui le crée aussi. Et qui n'empêche pas quelqu'un de s'exprimer dans un village, dans une agglomération, et bien sûr aussi dans une ville.
La politique était aussi au centre des préoccupations de la régie pub, comme nous l'explique André Vanette d'IPB.
Le travail principal à l'époque, c'était de convaincre le monde politique que ça ne servait à rien de saisir les émetteurs en permanence et que c'était inéluctable, que c'était un mouvement de société inéluctable et que par conséquent, il fallait rapidement modifier le contexte légal pour faire en sorte que ce secteur-là puisse se développer.
Et le monde politique était-il ouvert à ce genre de choses ?
Ah non, les seuls qui étaient ouverts, c'était les libéraux. La RTBF a toujours été soutenue par le monde de gauche, qui était moyennement favorable à ce genre de choses.
Jean-François Istas du Parti Socialiste nous a dit que sa formation politique était proche des radios associatives et de la RTBF. On lui a demandé comment le PS avait réagi à l'apparition des radios publicitaires.
J'ai bien vécu cette période parce que Radio Contact, enfin ce qu'allait devenir Radio Contact, était très présent dans ma région, qui est la région de Verviers. Il y avait notamment une station quasi professionnelle sur Verviers qui s'est lancée la publicité commerciale à un moment où ce n'était pas autorisé d'ailleurs, et qui l'a fait d'une façon professionnelle et qui en vivait. Et puis, on pensait que ça allait pouvoir se développer. Moi, je plaidais au sein du PS pour qu'on le donne un statut légal, ce qu'on n'a pas fait. Et finalement, toutes ces stations ont été rachetées, je veux dire, par ce qui est devenu maintenant Radio Contact. Et on n'a plus parlé de radio locale de ce type-là. C'est dommage, je trouve.
Pourquoi ce positionnement du Parti Socialiste vis-à-vis des radios commerciales ? Et y a-t-il eu une trahison des radios associatives ? Ce sont les deux questions qu'on a posées aux représentants du Parti Socialiste.
Je crois que le moment était déjà passé. On n'était plus au début des années 80. Et je crois que le souci des responsables du PS, et j'avoue que je n'étais pas très d'accord avec ça, le souci des responsables du PS était de donner finalement un statut à Radio Contact en tant que grande entreprise radiophonique de radio commerciale et non plus de défendre des radios commerciales privées. Donc le moment était passé. Je dirais qu'on ne s'est jamais clairement opposé, mais qu'on a essayé de distiller finalement l'apparition de la publicité en radio et en télévision de façon lente, et, mais réaliste en quelque sorte. Je crois que c'était la position du PS depuis 20 ans.
Et alors, justement, à ce sujet, que répondez-vous à ceux qui disent, dans certains milieux culturels et autres, que le PS a trahi les premières radios libres en acceptant le fait publicitaire et plus tard les réseaux ?
Je crois que trahison est un mot excessif. C'est vrai que le PS a été amené à tenir compte des réalités. La principale d'entre elles était qu'il n'y avait pas de budget disponible à la communauté française pour faire autre chose et qu'il a fallu admettre la publicité, tant d'ailleurs à l'RTBF qu'en dehors, dans le secteur privé, et essayer finalement de mettre tout le monde d'accord autour d'une sorte de consensus.
Les libéraux ont-ils gagné la bataille de la pub radio et télé ? Philippe Onfils, en tout cas, ne cache pas sa satisfaction d'avoir rempli la mission qui lui avait été confiée.
Le PRL a réalisé ce qu'il avait décidé de faire. Moi, je répète que j'avais eu pour mission de changer fondamentalement les choses, d'introduire la concurrence à l'intérieur des grandes stations, c'est-à-dire ATBF et une station privée qui s'est avérée après être RTL. On m'a demandé également de réglementer autant que possible les radios locales pour éviter un petit peu le bordel dans lequel elles saignaient, mais de les reconnaître. On en a reconnu à peu près 200 et quelques, je ne sais plus combien on en a reconnu.
162.
Voilà, exactement, par catégorie. Donc tout ça a été fait. Il y avait encore d'autres éléments dans le décret. Et donc, je ne crois qu'on a gagné la bataille d'eux. On a fait ce qu'il fallait faire dans un système totalement bloqué, où il y avait une omnipotence colossale d'un organisme. Alors vous me direz, cet organisme, il était pluraliste au niveau du conseil d'administration. Oui, il était en fait, mais on sait quand même très bien que, à part le conseil d'administration, c'est quand même la quotidienneté des émissions qui sont réalisées. Je suis vice-président de l'Opéra Royal de Wallonie. Ce n'est pas moi qui décide de ce qui se passe à l'Opéra Royal de Wallonie. C'est jusqu'à preuve du contraire le créateur, le directeur général, l'orchestre, les chœurs et les chanteurs, forcément.
Comment, du côté des radios associatives, on a vécu les tractations politiques autour de la pub et des premières autorisations d'Istukens, de l'Association pour la libération des ondes ?
Mais en fait, mon expérience dans ce domaine-là, qui est assez limitée parce que j'ai eu peu de contact avec un certain nombre de partis, je ferai un portrait suivant. Il y avait quatre associations autour de la table au Conseil des radios locales indépendantes et ensuite à la commission technique radio du CSA. Et donc trois de ces associations étaient au fond un relais politique de leur parti. La quatrième étant la LO, n'ayant pas de relais politique. Je pense qu'au niveau des partis, on ne s'est pas trop inquiété de cela, à part peut-être pour mettre en place des radios, ce que j'appelle des radios de bourgmestre, hein, un peu comme on a eu dans le cas de certaines télévisions communautaires. Je pense que dans les partis, on s'est surtout intéressé à la RTBF. RTBF, dont le conseil d'administration est constitué en fonction des résultats des élections, qui a aussi un budget très important par rapport au budget que peut avoir une radio privée ou une radio libre. Et donc, rien que sur cet aspect-là, la discussion dans les commissions culture ou médias des partis était surtout qu'est-ce qu'on fait avec, ou comment est-ce qu'on essaye d'avoir une influence au niveau de la RTBF. Et donc, c'est aussi une question de visibilité. Il est bien évident que si je passe 30 secondes au journal télévisé de la RTBF, ça risque de toucher plus de monde que si je passe un quart d'heure sur Radio Air Libre.
We'll be right back. Je vous rappelle que cette émission s'appelle « On se retrouve après la pub » et qu'elle raconte l'histoire de l'arrivée de la publicité sur les radios libres. On va maintenant parler plus spécifiquement de Radio Air Libre, qui est la seule pionnière de 1980 qui existe encore et qui n'a jamais diffusé de publicité. Alors on a demandé à Distukens de nous dire s'il y avait une recette Air Libre. Et Jean-Loup Bertin, Jacques Muche et Pierre Baille, qui animaient eux sur des radios commerciales, nous diront ce qu'ils pensent de cette démarche.
Mais ça fait depuis très longtemps, quasiment depuis le début, que certains prédisent la fin de Radio Air Libre, entre autres pour des questions financières. On a toujours été à la corde, hein, mais c'est vrai qu'on vit toujours, on existe toujours, et c'est entre autres dû au fait qu'on a toujours travaillé, entre guillemets, dans le low cost. Ce n'est pas innocent non plus d'un point de vue projet de radio, parce qu'on a toujours voulu travailler avec une radio qui, techniquement, pouvait être utilisé par monsieur, madame, tout le monde. Et donc pas d'équipement particulièrement sophistiqué. On a travaillé pendant longtemps avec du matériel tourne-disque, enregistreur, comme on a à la maison, quoi, de façon à rendre l'outil facilement utilisable. Aujourd'hui, forcément, les normes ont un peu changé et avec la numérisation des radios, on a évolué aussi et la technique devient plus compliquée que ce que moi j'ai connu au départ. On travaillait avec un petit enregistreur et on mettait le micro et on enfonçait la touche enregistrement avec pause pour parler à l'antenne, quoi. Mais donc on est loin de là. Mais néanmoins, on est toujours resté avec des budgets très bas de façon à pouvoir justement continuer à assurer cela. Et donc, l'autre aspect, c'est que Radio Air Libre est une des rares radios où il est possible de faire ce qui n'est pas possible de faire ailleurs. Et c'est tant au niveau musique qu'au niveau de information. Je prends ici information dans tout le discours en général. Donc, on peut par exemple passer un morceau de musique de 20 minutes ou de 30 minutes sans aucun problème. Il n'y a pas de coupure pour passer la pub comme éventuellement ça se fait dans d'autres radios. Idem pour l'information, on a vraiment mis en place cet aspect de information différente, information alternative, et c'est pas pour rien que le slogan de Radio Air Libre est depuis quasiment le début, je pense, une alternative dans la jungle des ondes.
Je trouve ça super, sincèrement, je trouve ça, c'est très 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 sincère de ma part, je trouve ça génial que des radios comme celle-là continuent à vivre sans publicité, mais c'est pas la publicité qui me dérange, moi, ou qui me dérange ou qui m'arrange, peu importe. Je trouve que c'est génial que ces radios existent encore. Je trouve simplement que, alors je ne connais pas bien aujourd'hui dans quel état ils sont, je dirais, au niveau de la structure, etc. Mais je crois que plus ces radios se professionnaliseront, mieux ce sera. Parce que quand tu regardes, moi qui écoute beaucoup les médias à l'étranger, qui vais beaucoup à l'étranger pour écouter justement les médias et discuter avec les gens, tu peux faire une radio associative, intéressante, combative, qui veut souligner les injustices, etc. Mais c'est pour ça que tu ne peux pas être professionnel et avoir des moyens pour bien faire les choses. Ça n'a rien à voir, c'est deux choses totalement différentes. Je veux dire, les plus grands reporters qui vont dénoncer ce qui se passe au bout du monde, ils travaillent pour des agences, ils ont les meilleurs appareils au monde, ils ont toute la technologie qui leur permet, c'est-à-dire, ça permet d'aller encore plus loin dans le débat et dans ce que tu veux souligner. Moi, c'est la seule chose. Et je trouve qu'à un moment ou à un autre, c'est la seule chose. C'est de dire qu'il ne faut pas rester dans le... Tant que tu continues à évoluer avec ton temps et que tu ne restes pas dans le combat de 1980, ce n'est pas un souci. Mais il faut évoluer. Et que tu sois associatif ou pas, il faut évoluer. Je crois qu'elle a évolué. Je crois qu'il y a une volonté de continuer. Mais je suis admiratif et je suis content qu'il y ait encore des... Un peu comme les Gaulois, hein, dans Astérix, il y a les derniers qui restent. Les derniers pionniers. Mais c'est très bien. Ouais. Je trouve que c'est bien. Après, il faut arriver à continuer à perpétuer cela pour que des nouveaux révolutionnaires, entre guillemets, des nouveaux Che Guevara et viennent prendre la place, parce qu'il faut éviter que ce soit les vieux dinosaures qui continuent à avoir ce côté un peu 68-art, tu vois, où on est encore avec des cheveux longs et on fume le pétard, et que t'as pas une nouvelle génération qui est aussi dans la révolution, mais qui n'est pas dans la même révolution. C'est-à-dire qu'il y a quand même une différence qui s'est créée, c'est que dans les années fin 70 et début des années 80, et pour toutes les radios, c'est que la révolution s'est faite entre les parents et les enfants, ou entre les personnes plus âgées et les plus jeunes. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un poste de radio à la maison, il n'y avait pas les moyens de communication tels qu'aujourd'hui, il n'y avait que certaines radios qui nous disaient, on va dire, la vérité, et l'autre, c'était des menteurs, ou en tout cas, c'était le diable. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont tout ça. Je veux dire, aujourd'hui, si ton père n'écoute pas la même musique que toi, tu t'en fous, tu vas sur Internet et tu auras ta musique. Si la radio ne te propose pas ce que tu as envie, tu vas chercher ailleurs. Donc, de la même manière que les radios, on va dire, commerciales doivent se métamorphoser et s'adapter à ce qu'est aujourd'hui la société et les gens qui écoutent les médias, il faut de la même manière que ces radios comme Air Libre évoluent de la même manière, quoi, mais dans leur univers à eux, quoi.
Donc, il ne faut pas se fermer à un dogmatisme. C'est un dogmatisme. Non, je suis une radio sans pub. Ça ouvre des métiers, des perspectives, des respirations.
Nous, on voyait les choses comme ça, en tout cas. Mais ça ne nous aurait pas déplu d'avoir, en plus, la possibilité de faire des émissions, comme sur Radio Opéra, que tu connais à l'époque, parce que, et qui pourtant était une émission de musique classique, hein, donc, mais qui avait pu s'ouvrir aussi à un autre genre musical. Et sur Radio Opéra, bizarrement, c'est pas uniquement de la musique classique. Moi, l'après-midi, le mercredi après-midi, je racontais l'histoire d'un groupe. Hein, donc l'histoire des Dire Straits, des Beach Boys, des Beatles. Pas toute l'histoire, mais j'allais piocher, si tu veux, les grandes étapes, et musicalement, évidemment, j'ai aimé tout ça. Pas une seule pub, un grand bonheur, évidemment, mais une autre démarche.
Rétrospectivement, était-ce une bonne idée d'accorder la publicité à la RTBF et aux radios libres ? Nos invités politiques nous donnent leur avis sur le sujet.
Alors je vais vous dire quelque chose qui n'engage que moi, qui n'engage pas le PS. Je crois que c'était une erreur. Moi, je crois qu'il ne fallait pas le faire. Il fallait essayer de maintenir la RTBF comme service public. Évidemment, on l'aurait privé de moyens importants. Donc il y a des choses qu'elle fait actuellement qu'elle n'aurait pas. On n'avait plus les moyens de faire, mais je crois qu'on aurait conservé quand même une télévision de service public authentique, notamment comme les radios libres. Et ça, je crois qu'on a raté un tournant, qu'on aurait pu vivre autre chose, mais que pour cela, il fallait être plus conscient à l'époque des enjeux, ce qu'on n'était pas entièrement. Maintenant, on peut le dire avec le recul. Exactement. Mais les libéraux ont toujours eu un modèle américain, je vous ai quelques parenthèses, donc eux, ils voyaient la télévision américaine, ils voyaient les radios américaines, et nous, on était très frileux, on voulait du changement, mais pas trop. Et bon, on n'a peut-être pas joué les bons enjeux, mais en même temps, on a quand même réussi à ce que le secteur public soit maintenu dans l'audiovisuel. Donc je dirais qu'on n'a pas tout échoué quand même.
Ben, nous n'avons jamais été enthousiastes de donner la publicité à l'RTBF. Nous, on a toujours dit, puisque vous avez des subsides, débrouillez-vous avec vos subsides et laissez la publicité à ceux qui n'en auront pas. Bon. Ben, vous savez très bien qu'en 1991, si je ne m'abuse, on a donné la publicité à l'RTBF et qu'on profite largement. Je constate d'ailleurs que depuis quelques temps, au hasard des articles de journaux et autres, non seulement la RTBF a un énorme budget par rapport à ce qui reste de la communauté française, mais aussi... elle développe quand même une action publicitaire importante. Bon, mais c'est comme ça, on ne va pas y revenir. Dès lors, vous imaginez bien que j'étais extrêmement partisan de donner au moins la publicité à toutes les radios libres. Comment voulez-vous qu'elles survivent ? Même les grandes radios, sans la moindre possibilité, d'autant plus que les décrets leur imposaient un certain nombre d'obligations, notamment pour les grandes radios, avoir des journalistes à temps plein et d'autres choses du genre. Il était tout à fait normal qu'ils en aient. La publicité, je le dis quelque part, c'est un mal nécessaire, d'autant que maintenant c'est un peu dépassé par Internet et Facebook et tout ça, c'est un autre problème. Mais on ne pouvait rien faire d'autre que de donner la télé, la publicité à toutes les radios, même aux petites et aux grandes. Et nous n'avons pas donné la publicité à l'RTBF d'abord, d'autres l'ont fait, mais bien entendu, les choses avançant maintenant, je ne crois pas, malgré les déclarations des uns et des autres, qu'on verra en arrière sur le système qui existe actuellement, d'autant plus qu'il y a eu d'autres éléments. RTL n'est plus une télévision belge, partie au Luxembourg, RTL TVI, etc. Tout ce monde a changé, donc maintenant c'est, me semble-t-il, bloqué entre guillemets pendant un certain temps, mais pour nous, il est clair que la survie des radios passait par la publicité, puisqu'il était impossible de leur donner un centime de subsides de l'État, puisqu'on n'a pas les moyens de le faire, bien entendu.
Quel regard jette aujourd'hui sur la publicité André Vanek en tant qu'ancien directeur d'IP et Edith Stukens comme opposant à cette pub? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir et nous entendrons que leurs avis sont moins divergents que l'on aurait pu le croire. On commence avec Edith Stukens.
Moi, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit « Voilà, moi j'écoute telle radio ou je regarde telle TV parce qu'il y a des chouettes publicités. » Je n'ai jamais rencontré ça. Je pense que beaucoup de gens considèrent que la publicité, c'est un mal nécessaire. Et parfois, ça les énerve. Il me semble aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont allergiques à la publicité et qui vraiment décrochent à certains moments. Comment supporter 20 minutes de tunnel publicitaire après le journal télévisé pour avoir une minute 30, 50 grand maximum de météo? Faut la mériter, sa météo. Hein. Donc bon, moi je coupe le son au moins pour essayer de ne pas rater le début de la météo. Et donc ce n'est pas un choix, la publicité en tant qu'auditeur, c'est imposé. Et donc je remarque aussi qu'il y a de sérieux dérapages au niveau. Lors des attentats de Bruxelles, le 22 mars à 11h, il y a une émission spéciale du journal télévisé qui couvre les informations, l'événement. Et puis à 11h moins 1, paf, le présentateur, le journaliste est coupé, on lui coupe la parole pour faire une publicité pour des soutiens-gorge avec, vous en achetez deux, il y en a un gratuit. Le technicien d'antenne se rend compte du problème, il coupe, mais automatiquement la machine se remet en route. Et finalement, à son deuxième essai, le technicien d'antenne, le gars qui était chargé de surveiller le truc, a réussi à débrancher le truc. Mais on en arrive à des aberrations comme ça, quoi. On coupe la parole à l'information pour passer la pub. C'est évidemment inacceptable pour beaucoup de gens. Beaucoup plus qu'on croit, je pense. Hein? Même dans ceux qui disent, allez, c'est quand même un mal nécessaire. Et donc, une radio comme Radio Air Libre capitalise sur ces gens qui sont allergique à la publicité ou à un certain type de radio très conforme, qui correspond à un modèle presque, c'est presque du maniérisme, je dirais, hein. Donc on est dans le cliché. Et moi je dirais, mais mon chiffre, j'ai pas fait des statistiques là-dessus, hein, je pense que 30% au moins des gens sont allergiques à la publicité, ce qui fait qu'ils cherchent des médias où il y a peu ou pas de publicité. Et donc moi, par exemple, mon niveau de supportage de publicité, c'est Musique 3, Arte, hein, en télé, mais Classique 21, je ne supporte pas, quoi. J'aime peut-être bien la musique, mais c'est la présence persistante de publicité, ça m'énerve au plus haut point. Donc il y a aussi le fait, est-ce qu'on écoute la radio ou est-ce qu'on la met en bruit de fond? Il est évident que si je mets un bruit de fond pour avoir une présence sonore, etc., je vais peut-être plus ou mieux supporter qu'il y ait des publicités que si j'écoute vraiment une émission parce qu'elle m'intéresse et parce que j'ai envie d'écouter ce type de musique-là ou d'écouter le message qu'apporte l'invité de l'émission de Parlotte, quoi. Et donc la question fondamentale pour moi, c'est pourquoi est-ce qu'on écoute telle ou telle radio? Alors, il y a la manière, évidemment, dont des radios font leur information, leur habillage d'antenne, la musique, etc. Et on sait qu'il y a un pourcentage relativement important, c'est pas 50%, hein, mais de gens qui recherchent autre chose, qui sont des gens qui n'ont pas envie d'écouter le hit parade, qui veulent écouter des nouvelles choses, qui veulent découvrir, et donc qui sont un public potentiel pour des radios comme Radio Air Libre.
Alors, la Belgique est très particulière. Hein, le taux d'investissement en radio est probablement un des taux les plus élevés du monde.
Et on sait pourquoi ?
Grâce aux grandes régies qui ont promu, le média à l'époque. Mais c'est le plus élevé du monde. Alors, c'est dû à plusieurs phénomènes. La Belgique, d'abord, est un petit marché. Et nous avons toujours voulu, et je dois dire que la RTBF a toujours joué le jeu à l'époque, laisser le niveau de coût contact, le coût au GRP pour ceux qui connaissent, le coût au 1000, c'est-à-dire le coût par téléspectateur de la télévision, on l'a laissé trois fois plus haut que partout ailleurs dans le monde. L'objectif n'était pas de développer les radios qui n'étaient pas chères. Hein. L'objectif était de protéger la presse quotidienne. Et donc de ne pas faire de la télévision ce qu'elle est devenue quasiment partout dans le monde, un média largement majoritaire. En Belgique, la télé est toujours pas largement majoritaire. Mais l'objectif était un objectif, je dirais, de marché, politique, stratégique. Il s'agissait de protéger la presse code. Et du coup, ça a laissé une autoroute à la radio, qui s'est extraordinairement développée avec des parts de marché, je pense, deux fois supérieures à ce qui existe ailleurs.
Maintenant, en parlant spécifiquement de la pub radio, comme on le fait d'ailleurs, ne trouvez-vous pas que la publicité a aussi uniformisé les programmes et qu'on entend un peu partout la même chose ?
Oh ben bien sûr, mais c'est partout pareil. Que ce soit, tous les médias connaissent ça. Hein. Tous les médias qui sont malheureusement de plus en plus dépendants de la pub. Je voyais ce matin un magazine féminin. J'ai commercialisé à l'époque d'IPB énormément de presse également. On a lancé Ciné-Télé-Revue et des choses comme ça, qui est devenu numéro un de la presse francophone en diffusion et en recettes publicitaires. C'est un média extraordinaire, comme Dark Allemal dans le nord du pays. À l'époque, il était hors de question que le rédactionnel ne soit pas en page de droite. Aujourd'hui, il n'y a plus un magazine qui ne met pas la pub en page de droite. Du coup, vous voyez arriver du publi rédactionnel, vous voyez arriver en presse d'énormes dérives. Et par ailleurs, les programmes effectivement s'uniformisent. Vous retrouvez The Voice à la RTBF et tout le monde fait plus ou moins la même chose. Regardez ce qui se passe en France. Ça n'est qu'un problème d'audience. Je regrette souvent d'avoir inventé l'audimétrie parce qu'elle conduit effectivement à ce que vous appelez très gentiment l'uniformisation. Moi, je pense pudiquement, on va dire baisse de qualité, mais dans pas mal de cas, vous voyez passer des émissions qui font de l'audience et qui sont débiles. Mais à un point qui est inimaginable. Or, est-ce que c'est ça le rôle d'un média ? Est-ce que dans le rôle de tous les médias, pas uniquement le service public, parce qu'il ne faut pas ramener le service public à 3% d'audience sous prétexte qu'il doit faire que du culturel, mais tous les médias devraient avoir une mission culturelle. Je trouve qu'en France, c'est encore France 2, avec France 3 qui s'en sort. Je ne vais pas parler d'Arte, parce qu'il y a des super produits sur Arte, mais il fait pas d'audience. Mais France 2, France 3, enfin, le groupe de France Télévisions arrive quand même à taper en prime des émissions qui ne sont pas nécessairement des émissions racoleuses, enfin voilà, des Racines et des Ailes, ça va quoi, c'est Thalassa qui est un miracle.
Est-ce que vous pensez que s'il n'y avait pas de publicité en radio, par exemple à la RTBF, les programmes seraient plus originaux, de meilleure qualité?
Oui.
Voilà.
Ah, plus originaux, certainement. De meilleure qualité, j'en sais rien, puisqu'aujourd'hui tout le monde mélange qualité et quantité. C'est-à-dire qualité, c'est ce qui fait de l'audience. Or, nous savons que c'est pas vrai, en tout cas dans certains milieux. Mais par ailleurs, si vous ne faites pas d'audience, vous n'existez pas. Et donc, il y a quelque part, vous savez, moi je fais partie de ceux qui militent contre le principe des référendums en démocratie. Mais en radio, enfin en médias, c'est la même chose. Il y a une forme de dictature populiste qui fait qu'on se laisse tous entraîner à faire ce que soi-disant le peuple demande.
Et est-ce que ce n'est pas justement le rôle de la régie de conseiller
Alors, la régie conseille en marketing, mais la régie va toujours avoir tendance à tirer son média vers le plus d'audience possible, puisqu'on vend que... les tarifs publicitaires sont directement liés à l'audience. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre que de tirer votre... Donc, c'est plutôt au média lui-même d'être attentif, de faire la part des choses et d'essayer de temps en temps d'expliquer et surtout de vendre des émissions à caractère plus culturel. Il faut une émission à caractère culturel, ça ne se programme pas comme ça dans une grille de programme. Il faut la promouvoir, il faut bien plus que les autres. Et il faut raconter une histoire. Aujourd'hui, alors que c'est les médias qui devraient être les plus grands storytellers du monde, en général, ils sont très mauvais dans ce secteur-là, pour eux-mêmes, l'histoire du cordonnier.
Et pensez-vous qu'aujourd'hui, il y a des alternatives à la publicité pour financer des médias, et la radio en particulier?
C'est un vrai gros problème. tout le monde pense à l'alternative publique, l'alternative de la radio indépendante qui vit exclusivement d'une dotation. Mais tout le monde sait que dans ce cas-là, la dépendance n'est plus une dépendance à l'audience, c'est une dépendance aux idées, qui est peut-être plus grave encore. J'adore la radio, donc je vous l'ai dit, c'est pour moi le plus beau média du monde. Cette immédiateté qu'elle génère, c'est fantastique. Faire de la radio, pour ceux qui la font, je leur dis souvent, parce qu'il m'arrive de temps en temps d'être dans un studio, je leur dis souvent, vous ne vous rendez peut-être pas compte parce que vous êtes dedans tous les jours, mais vous faites le plus beau média du monde. C'est le seul qui permet le côté détendu, franc, direct, qui donne vraiment du sens aux médias. La radio, c'est la vie.
Mais je pense que c'est une superbe conclusion. Et voilà, c'est ici que se termine cette émission consacrée à l'arrivée de la pub sur les radios libres. On espère qu'elle vous a intéressé. Merci en tout cas à tous les invités et à tous ceux qui ont rendu cette émission possible. Vous pouvez la retrouver intégralement avec des bonus sur le site archiveradio.be. Et nous, eh bien, on se retrouvera très vite, sans doute, avec d'autres sujets.
Ce programme vous est proposé par archiveradio.be avec la collaboration du Fonds d'aide à la création radiophonique et la Fédération Wallonie-Bruxelles.